Chapitre 12. Des hommes. Les Valar siégèrent alors en paix derrière leurs montagnes, et ayant donné la lumière à la terre du milieu, ils la laissèrent longtemps à elle-même, et la suzeraineté de Morgoth demeura incontestée, hormis par la valeur des Noldor. Ulmo surtout gardait les exilés en tête, lui qui recueillait des nouvelles de la terre à travers toutes les eaux. À partir de ce jour, furent comptées les années du soleil, qui sont plus rapides et plus brèves que les longues années des arbres en Valinor. À cette époque, l'air de la terre du milieu se chargea d'un vent de croissance et de mortalité, et la transformation et le vieillissement de toutes choses s'accélérèrent grandement. La vie fourmillait dans le sol et les eaux du second printemps d'Alda, et les Eldar se multiplièrent. Et sous le soleil nouveau, le Beleriand verdit et s'embellit. Au premier lever du soleil, les plus jeunes enfants d'Ilúvatar s'éveillèrent dans le pays de Ildorien, dans l'est de la terre du milieu. Mais le premier soleil se leva dans l'ouest, et les hommes ouvrirent les yeux et tournèrent leurs regards en sa direction. Et leurs pas, tandis qu'ils erraient sur la terre, se tournèrent souvent de ce côté. Les Eldar les nommèrent les Atani, le second peuple. Mais ils les appelaient aussi Ildor, les suivants, et beaucoup d'autres noms encore. Apanonar, les derniers-nés, Engwar, les maladifs, et Filimar, les mortels. Et ils les surnommèrent les usurpateurs, les étrangers, et les impénétrables, les maudits d'eux-mêmes, les maladroits, ceux que la nuit effraie, les enfants du soleil. Il n'est guère question des hommes dans ces contes qui concernent les plus anciens jours d'avant l'ascension des mortels et du déclin des elfes, sinon de ces pères des hommes, les Atanari, qui, aux premières années du soleil et de la lune, s'aventurèrent dans le nord du monde. En Ildorien, ne vint aucun Vala pour guider les hommes ou les inviter à se rendre en Valinor. Et les hommes ont craint les Valar plutôt qu'ils ne les ont aimés, et ils n'ont pas compris les desseins des puissances, étant en opposition avec celles-ci et en conflit avec le monde. Ulmo n'était toutefois pas sans égard pour eux, aidant aux résolutions de Manwë, et ses messages leur parvenaient souvent par cours d'eau et marée. Mais ils n'ont pas l'entendement de ces choses, et l'avaient encore moins en ce temps-là, avant de s'être mêlés aux elfes. Ils aimaient donc les eaux, et leur cœur s'en émouvait, mais ils n'en comprenaient pas les messages. On dit toutefois qu'ils rencontrèrent bientôt des elfes sombres en maints endroits, et que ceux-ci les prirent sous leur aile. Et les hommes devinrent dans leur enfance les compagnons et les disciples de ce peuple ancien, les égarés de la race elfique, qui jamais ne s'engagèrent sur les chemins du Valinor, et pour qui les Valar n'étaient qu'une rumeur et un nom lointain. Or, il n'y avait guère longtemps que Morgoth était revenu dans la terre du milieu, et son pouvoir ne s'étendait pas loin, tenu en échec, qui plus est, par le soudain avènement de la grande lumière. Les terres et les collines étaient peu périlleuses, et de nouvelles choses, conçues dans la pensée de Yavanna de longs âges auparavant et semées comme des graines dans l'obscurité, y vinrent enfin à bourgeonner et à fleurir. Dans l'ouest, dans le nord, comme dans le sud, les enfants des hommes se répandirent au hasard de leurs errances, et leur joie était celle du matin, avant que la rosée se dissipe, quand toutes les feuilles sont vertes. Mais l'aube est de courte durée, et le jour venu trahit souvent sa promesse. Aussi fut-ce bientôt l'heure des grandes guerres entre les puissances du Nord, quand les Noldor, les Sindar et les hommes se mesurèrent aux armées de Morgoth Baoglir, et coururent à la ruine. À cette fin, les subtils mensonges de Morgoth, semés autrefois parmi ses ennemis et sans cesse renouvelés depuis, la malédiction née du massacre d'Alqualondë et le serment de Fëanor, étaient toujours à l'œuvre. Sont racontés ici une partie seulement des faits et gestes de cette époque, ayant trait avant tout aux Noldor, aux Silmaril et aux mortels qui se trouvèrent mêlés à leur sort. En ce temps-là, les elfes et les hommes étaient de semblable stature, et de force équivalente. Mais les elfes s'illustraient par leur sagesse, leur habileté et leur beauté, et ceux qui avaient foulé le Valinor et contemplé les puissances surpassaient d'autant les elfes sombres en toutes ces choses que ceux-ci surpassaient à leur tour les gens de race mortelle. Seul le royaume de Doriath, dont la reine Méliane était apparentée aux Valar, comptait des Sindar pouvant rivaliser avec les Kalakwendi du royaume béni. Les elfes étaient immortels, et chaque nouvel âge ajoutait à leur sagesse, et aucune peste ni maladie ne leur apportait la mort. Certes, leur corps était de la matière terrestre et pouvait être détruit, et en ce temps-là, ils ressemblaient davantage à ceux des hommes, puisqu'il n'y avait pas si longtemps qu'ils étaient habités par le feu de l'esprit qui, au fil du temps, les consume de l'intérieur. Mais les hommes étaient plus frêles, plus aisément tués par les armes ou par accident, et moins aptes à guérir, sujets à la maladie et à de nombreux maux, et ils vieillissaient et mouraient. Ce qu'il advient de leur esprit après la mort, les elfes n'en ont pas connaissance. D'aucuns disent qu'ils vont eux aussi au hall de Mandos, mais que leur séjour là-bas n'est pas celui des elfes. Et seul Mandos, sous Ilúvatar, Manwë excepté, sait où ils vont après leur période d'attente et de recueillement en ces halles silencieuses au bord de la mer extérieure. Aucun d'eux n'est jamais revenu du séjour des morts, hormis Beren, fils de Barahir, dont la main s'était saisie d'un Silmaril. Mais jamais plus il ne s'adressa aux hommes mortels à compter de ce jour. Peut-être le sort des hommes après la mort ne repose-t-il pas entre les mains des Valar, et tout n'a pas été révélé dans la musique des Ainur. Plus tard, quand le triomphe de Morgoth entraîna la séparation des elfes et des hommes, comme il l'avait tant souhaité, ceux de la race elfique qui vivaient encore en terre du milieu déclinèrent et s'évanouirent. Et les hommes usurpèrent la lumière du jour. Alors les Quendi errèrent dans la solitude des vastes terres et des îles, et ils hantèrent le clair de lune et la lueur des étoiles, et les forêts et les cavernes, devenant comme des ombres et des souvenirs, sauf ceux qui, de temps à autre, faisaient voile dans l'ouest et disparaissaient de la terre du milieu. Mais à l'aube des années, elfes et hommes étaient alliés et se tenaient pour frères. Et il y en eut parmi les hommes pour apprendre la sagesse des Eldar, et leur grandeur et leur bravoure se signalèrent parmi les capitaines des Noldor. Et de la gloire et de la beauté des elfes et de leur destin, reçurent en juste part les enfants d'union elfes et mortels, et Arendil et Elwing, et Elrond, leur fils.